je peux pas en avoir plus, j'en veux bien 12. Non, c'était 8. J'ai eu 8. Mais c'était vraiment génial, incroyable, et une fierté de dingue. Surtout que je connaissais Covin parce qu'il était un peu de mon coin, mais Lambil moins, et j'ai pu rencontrer Lambil. J'ai pu rencontrer plein d'autres auteurs à qui on parlait de Tunique Bleue. C'était vraiment un super souvenir collectif, quoi.
Parce que là, on parlait Spirou, mais il y a Tunique Bleue. Enfin, d'ailleurs, ça sortait dans le
Spirou,
les Tuniques Bleues.
Tout à fait.
Hein. Ça sortait dans Spirou. Ça fait vraiment partie des trucs qui ont marqué l'histoire quand même de la BD. Là, on touche
c'est un monument de la BD. Là,
ouais, c'est on fou, touche quoi. Vraiment à des trucs.
Et je trouve ça fou que ça ne soit jamais devenu une série, un film, un dessin animé. Les Tuniques Bleues, ça s'y prête vraiment. Alors peut-être que ça coûte trop cher parce qu'il y a des faut plein de costumes, etc. Mais franchement, ça le ferait en film.
Et alors finalement, Sty, tu arrives à toucher à plein de mythes en fait à travers ton travail. J'ai l'impression que tu les collectionnes, tu les enfiles un peu les mythes. Ouais, c'est ça. David Gaston, t'as bossé aussi sur les trucs de Gaston.
J'ai fait le Marsu.
Ah ouais, ça aussi. Ouais.
Voilà, j'ai écrit quelques gags de. J'ai écrit un peu pour Kid Paddle aussi. Voilà, et puis régulièrement aussi dans le journal Spirou, alors qu'il s'est pas sorti un album derrière, mais j'ai réalisé des histoires courtes de Spirou et Fantasio.
Là t'as touché quand même quasiment à tous les mythes. Oui, c'est ta spécialité, toucher aux mythes.
Oui, mais alors s'il y a une série qu'on me proposait de reprendre et je dis oui tout de suite, je réfléchis même pas, c'est Spirou et Fantasio. C'est mon rêve. Ouais. Je lance un appel aux éditions Dupuis, appelez-moi, je suis à votre disposition.
Je suis prêt.
J'ai déjà fait tous les autres mythes. Voilà, c'est ça. Je me suis déjà attaqué à tous les autres mythes, n'hésitez pas, je suis au point.
Un petit Mickey aussi, ça me plairait bien. Il n'y a pas que Spirou, il y a Mickey, j'ai une grosse affection pour Disney aussi, pour ces personnages-là.
Oui, mais enfin, le dessin est complètement différent.
Pour écrire une histoire, après, je peux m'associer avec d'autres auteurs.
D'autres auteurs, oui, d'accord.
Sur la table de travail actuellement, il y a quoi de stimulant? On n'est pas obligé de parler de tout, mais il y a quoi de stimulant genre, en ce moment sur la table de travail?
Ce qui est surtout stimulant, c'est quand je lance une nouvelle série. Et donc là, j'en ai une qui arrivera l'année prochaine, en février, que je fais en collaboration avec Miss Prickly, qui est la première dessinatrice de Mortel Adèle, qui fait maintenant une série qui s'appelle Animal Jack. Et sur un salon, on discutait, me demandait sur quoi je travaillais. J'avais une petite histoire d'une princesse chevaleresse, une petite gamine de 10 ans qui, en cachette de ses parents, rend la justice sur son petit poney avec son armure et tout ça. Et elle me dit, je suis hyper intéressée. Et on s'est lancé là-dedans. Et ça va devenir une série qui sortira l'année prochaine, pour le tome 1 en février, le tome 2 en octobre. Donc avec Miss Prickly au dessin et à la couleur chez Dupuis. C'est vraiment en ce moment le truc que j'ai qui tient mes pensées, parce qu'en plus le tome 1 est fini, on l'a mis ce qu'on appelle au frigo. Alors j'explique un peu ce que c'est le frigo, c'est quand on a un tome qui est déjà prêt mais qu'on ne sort pas tout de suite pour pouvoir faire avancer sur le deuxième, et afin de pouvoir faire deux sorties à peu près parce que maintenant, notamment depuis la mode du manga, les gens ont du mal à attendre un an ou deux ans, notamment au début des séries, entre chaque tome. Donc là, en fait, on en a un de prêt, on termine le deuxième là, et on va pouvoir en sortir deux d'un coup et attaquer le troisième direct.
Chez les séries télévisées aussi, aujourd'hui les gens mangent la saison. Hein.
Exactement.
On attend plus son feuilleton la semaine d'après.
Mais oui, c'est pour ça qu'ils font pareil, ils mettent au frigo les épisodes. Voilà. Donc ça sortira en février, en octobre. Ça s'appelle Edelweiss, Princesse et Chevaleresse. Et ça requiert toute mon attention en ce moment. Enfin, pas toute quand même.
Non, mais une bonne part. C'est ce qui est stimulant,
oui, c'est stimulant
aujourd'hui.
C'est ça.
Voilà. Non, mais j'aime bien aller sur cette question de qu'est-ce qui stimule. Parce que tout ne stimule pas au même niveau. Puis on a toujours un truc en tête autre. Donc, on est donc en courant de ce qui nous stimule, actuellement.
Tout à fait.
C'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, on est sur un festival. Il y a plein de gens à croiser, d'autres auteurs, d'autres illustrateurs, tous ceux qui font le milieu de la BD. C'est l'occasion pour toi aussi d'aller croiser, alors soit des copains, soit faire des rencontres,
évidemment. En fait, les salons BD, c'est notamment pour nous, on a tendance à être un peu des ours, à être un peu toujours chez nous, tout seul dans notre grotte. Après, il y en a certains qui ont de la chance de travailler en atelier, évidemment, mais moi, perso, je travaille de chez moi. Et aller sur les salons, c'est évidemment rencontrer les gens, les familles, les petits gamins et tout, qui sont comme des fous. Mais c'est aussi croiser, enfin, parler avec les copains. Là, moi, en plus, j'ai eu de la chance, on m'a installé, tous ceux autour de moi, c'est des potes. Donc, on passe notre journée à discuter. Et aussi, en voilà un.
On a Franck Bonnet qui est avec nous.
Avec qui j'étais le week-end dernier, à un autre salon.
Voilà, j'en profite du coup. Ouais,
vas-y. Et du coup, c'est aussi l'occasion de rencontrer des nouvelles têtes et créer des nouveaux projets. Quand on parle du projet, je vous ai parlé tout à l'heure de Edelweiss, Princesse et Chevaleresse. Mais voilà, ça s'est conclu sur un salon, quoi. En fait, entre nous, on s'est dit, ok, on va bosser ensemble. Voilà. Donc, c'est toujours stimulant. On rencontre on va dans des nouvelles villes. Alors, et sinon, moi, j'étais déjà venu. Mais voilà. Donc oui, c'est tout un mélange de choses. Voilà, passer des bonnes soirées, créer des souvenirs aussi avec et les bénévoles aussi, et les auteurs, et les gens, et tout le monde.
Et voilà. Sortir de sa grotte un peu comme ça.
Sortir de sa grotte. pouvoir parler un peu football avec Franck, par exemple.
Franck, faut pas hésiter à prendre le micro là, parce qu'en fait, on va faire des interviews qui vont passer l'un à l'autre.
Bonjour tout le monde alors.
Bonjour Franck. Si tu étais en train de nous dire, c'est l'occasion aussi de croiser les copains, rencontrer du monde, discuter.
On fait les festivals pour ça, pour rencontrer le public et rencontrer les copains. Comme on dit, on fait un métier assez. Bon, il y en a qui bossent en atelier, mais sinon, on fait quand même des métiers assez solitaires.
Solitaires, individuels, on va dire aussi.
Donc, les petits week-ends comme ça, ça permet de se retrouver le soir dans un contexte un peu plus.
On a dit qu'on parlait pas de ce qui se passait dans les soirées.
J'ai l'impression que mon micro il est assis.
Mais en tout cas, merci beaucoup Steve d'être passé par nos micros. C'est qu'on fait un peu transition. Mais tu peux rester. Tu peux rester aussi.
Avec un super auteur. Vous allez voir, il est très sympa. Il vient de Paris. C'est pas un vrai Normand comme
pas
moi,
la même chose, mais
on l'accepte avec plaisir parce qu'on aime bien tout le monde en Normandie.
Je me suis demandé en venant en train. Je me suis dit, ils doivent pas être gros les Normands parce que je trouvais que le train était très réduit par rapport à celui qui part vers l'est. Moi, je suis plutôt de l'est. Et alors, du coup, je me suis dit, mais non, mais si, il y a Steve quand même, donc c'est
bon, voilà, vous êtes en bonne main, donc je vais pouvoir retourner dédicacer.
Il y a des grands noms avec nous, donc merci Steve.
Mais c'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end à tous
et venez aussi. Surtout un bon
venez
salon,
les gens,
hein.
S'il vous plaît.
Et bien voilà, venez découvrir merci, effectivement Steve. Les auteurs. Merci, salut, Steve. On continue avec Franck Bonnet qui est installé avec nous, dessinateur également. Il est spécialiste des pirates, il recolle avec le thème. On aura l'occasion de revenir sur les.
Que j'ai fait l'affiche. Hein.
J'avais ma transition avec l'affiche et tout, mais bon, ouais. Franck le fera bien mieux que moi. Voilà, non, il le fera bien mieux que moi. Et c'est plutôt une bonne chose. Notamment, tu fais les changements de micro, c'est ça? Très bien.
Oui, parce que je crois que.
On va faire ça.
Damien, c'est bon pour toi?
Non, mais il préfère.
Pardon.
Il est très rigide, hein, notre technicien.
Oui, voilà,
il veut des
ça.
Couleurs
y a des
à des endroits.
Le micro Losty, c'est bien.
Voilà. Notamment, donc, comme je disais, oui, l'affiche, effectivement, du festival sur une thématique pirate. Et moi, je me suis arrêté 2 minutes sur la série Anne Bonny, qui est l'histoire au féminin.
C'est un diptyque en 2 tomes sur la vie d'Anne Bonny.
Voilà, Anne Bonny. Et alors, moi, je connaissais pas Anne Bonny. C'est un personnage réel, Anne Bonny.
Oui, pendant longtemps, on s'est demandé s'il avait vraiment existé parce que on tenait surtout, enfin, toutes les informations quasiment sur elle proviennent de Daniel Defoe, celui qui a aussi écrit Robinson Crusoe. Et comme on sait que il était à la fois romancier et soi-disant historien
et mythomane.
Moi j'ai raconté la vie d'Anne Bonny vue par Daniel Defoe avec des recoupements aussi d'autres historiens, parce que par le biais d'autres pirates qu'elle a croisés comme John Rackham, Calico Jack,
les grands personnages. Quoi, les grands.
Voilà, et donc après, le but de ce diptyque, c'était de raconter aussi la piraterie, parce qu'on a quand même pas mal dans l'imaginaire.
Étrillé un peu, hein.
Non,
la
mais les gens ont un imaginaire pirate qui a été dicté par déjà au début, par les premiers, on va dire, graphistes, les premiers dessinateurs qui ont dessiné la piraterie à l'époque des YF, tout ça, qui ont tout de suite commencé à instaurer un espèce de, je sais pas comment dire, un code vestimentaire et.
Un dress code, quoi, un peu, c'est ça.
Un dress code pirate. Alors, leur façon à eux, mais sans s'être vraiment documenté avant. C'est-à-dire que c'était un truc un peu, on va dire, rêvé, quoi. Et puis ensuite, c'est engouffré là-dedans le cinéma américain, qui de lui-même aussi a fait la même chose. Et donc, on se retrouve avec, toujours avec des films ou des histoires de pirates où ils sont sur des bateaux immenses avec 50 canons, où il faut normalement 8 personnes pour manœuvrer un canon. Donc, et c'est improbable d'avoir des pirates qui soient 100 ou 200 sur un bateau, puisque c'était des gens qu'il fallait nourrir, qu'il fallait loger, qu'il fallait payer. Et donc, ça coûtait beaucoup trop cher. Donc, la plupart des équipages pirates dépassaient rarement les 20 personnes, à peu près, quoi. Et donc, je voulais raconter avec Anne Bonnie tout cet univers. Donc, les mettre sur les vrais bateaux qu'ils avaient. Donc, des petits bateaux rapides, d'une vingtaine de personnes, des membres d'équipage, en fait. Leur vie aussi. On imagine toujours les pirates tatoués avec des boucles d'oreilles. En fait, ils portaient pas de boucles d'oreilles. Ils n'étaient pas tatoués. Ce qui choque le plus les gens, c'est quand je dis qu'ils avaient pratique homosexuelle sur leur bateau, parce qu'il y en a qui disent, ah, mais Anne Bonnie, elle était avec Mary Read. Il y en a qui disent qu'on ne sait pas si elles ont vraiment eu des rapports entre elles ou si c'était juste des rapports d'amitié. Il faut savoir que les pirates entre eux avaient des rapports sexuels sur le bateau. Ils pratiquaient le matelotage, qui était un espèce de mariage entre eux fait par le capitaine, pas devant l'église parce qu'ils croyaient pas en Dieu du tout, mais où il y avait un engagement, un contrat, comme un contrat de mariage, où ils se vouaient protection l'un et l'autre. Ils s'engageaient même dans le contrat à partager leurs conquêtes féminines s'ils en faisaient. Et sur le bateau, ils avaient des rapports sexuels, quoi. Voilà, donc ça, alors quand on dit ça aux gens, ah bon, les pirates, oui, des rapports sexuels entre eux sur le bateau, ça choque tout le monde. C'est possible, ils ne voyaient pas la sexualité comme nous de nos jours, on est il y a 300 ans, oui. Voilà. Donc j'ai voulu, par ce diptyque, raconter ça aussi, sur la vie d'Anne Bonnie, et aussi la vie des pirates de l'époque, comme elle était réellement, parce qu'il y a beaucoup de choses, comme le fait, on dit toujours, quand ils attaquaient un bateau, ils proposaient aux gens attaqués de venir avec eux. C'est pas vrai du tout. Ils étaient 20 sur un bateau, ils pouvaient pas en mettre 25, 30, les bateaux étaient très petits. Alors par contre, ils avaient perdu le charpentier dans un combat ou dans une bagarre le soir, parce qu'ils se battaient souvent entre eux, s'ils avaient besoin d'un charpentier, par contre, il pouvait leur arriver de prendre le charpentier d'un navire attaqué et de l'obliger à venir. Et c'est les seuls qui ont réussi à sauver leur tête à la fin, c'est quand ils arrivaient à faire témoigner les patrons de navires sur lesquels ils étaient, comme quoi on les avait emmenés, même si parfois ils partaient contre leur gré, mais quand ils restaient 6 mois ou un an sur le bateau, peut-être qu'on pouvait finir par contenir. Peut-être qu'ils avaient pris goût à la vie de pirate.
Justement, comment se passe cette documentation pour toi, Franck Bonnet? Comment est-ce que tu vas te documenter, récupérer les éléments?
Ça, c'est des recherches, hein, c'est BNF. Bon, maintenant, avec Internet, ça va être quand même pas mal. Beaucoup de lectures, énormément de lectures. C'est-à-dire que pour tout ce qui est sur mes séries d'avant, comme USS Constitution, sur ce qui est vie à bord d'un bateau, c'est que des... Parce que j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de romans de marine. Donc, c'est surtout des lectures, hein, plus que j'ai pas vécu la vie pirate ou même la vie sur un navire, un voilier du 18e siècle. Donc c'est que par des témoignages. On a des témoignages de vrais marins qui existent, Édouard Corbière, Jean Garneret, voilà, qui sont des gens qui ont vraiment navigué à l'époque au 18e siècle et au début du 19e siècle sur ce genre de bateau, qui ont laissé eux des écrits pour expliquer quelle était leur vie à bord. Donc voilà, je me sers de tout ça. Et on en découvre tout le temps. Par exemple, pour Anne Bonnie, quand j'ai commencé à écrire le scénario en 2020, on se demandait si elle avait vraiment existé, toujours comme je disais tout à l'heure. Et puis entre temps, en 2021, à Sainte-Catherine de la Jamaïque, dans un monastère, on découvre un acte de décès d'une certaine Anne Bonnie qui serait décédée en 1731. Donc il y a peu de chances qu'une Anne Bonnie qui soit décédée à quelques kilomètres de Kingston où elle a été arrêtée et emprisonnée soit une autre Anne Bonnie que la pirate dont on parle. Donc elle a certainement existé. Sauf que Daniel Defoe peut-être a un peu plus romancé sa vie qu'elle l'était réellement.
Oui, enjolivé, quoi.
On pourra jamais savoir de toute façon. Donc après, moi j'ai fait. J'ai fait une bande dessinée, donc je fais aussi. Avec tout ce que Daniel Defoe a raconté, quoi.
Et puis c'est nous emmener dans un univers et dans une histoire au bout d'un moment, enfin une bande dessinée, c'est ça, on embarque normalement.
Moi j'ai toujours aimé faire ça, c'est-à-dire que j'ai mélangé une documentation assez rigoureuse, aussi bien sur les navires que sur l'histoire à proprement dite, et dedans je glisse mon personnage qui est un personnage fictif comme l'ont fait avant moi, les Anne Gollon, quand ils ont écrit toute la saga des Angéliques, Marquises des Anges, qui était vraiment dans ce principe-là, c'est-à-dire de partir sur une réalité historique très documentée et amener un personnage fictif qui lui est romancé. Et après, j'essaie toujours de trouver dans des domaines qui sont assez déjà faits, refaits, vus et revus, j'essaie toujours de prendre des choses qui sont assez peu connues. C'est-à-dire que si j'avais pas envie, par exemple, de faire une histoire de pirate où il était question d'un trésor tatoué dans le dos, alors qu'on sait que les pirates n'avaient pas de tatouage, tatoué dans le dos pour aller chercher un trésor avec tomber sur une île où il y a une tribu indigène anthropophage, enfin voilà, si c'est pour faire ça, ça m'intéresse pas parce que ça a déjà été fait X fois. Donc j'essaie de trouver des sujets peu connus. Quand j'ai fait USS Constitution, c'était la première guerre maritime des Américains contre les pirates barbaresques. C'était la naissance de la marine de guerre américaine. Je trouvais que c'était intéressant parce que personne n'avait traité le sujet. Quand je fais Anne Bonny, là le sujet a déjà été traité. Ce que je fais, c'est que je traite de façon à autrement que ce que j'ai vu. Tout ce que j'ai vu sur Anne Bonny jusqu'à maintenant, c'était souvent plutôt des récits un peu pour adolescents ou même avant, plutôt jeunesse, et plutôt le côté on enjolivait les pirates, voilà, c'était la pirate qu'on a envie de prendre sous son aile, quoi. Et moi je me suis dit, bon bah Anne Bonny, c'est pour faire ça, ça a déjà été fait, je vais raconter sa vraie vie, comment c'était sur les vrais bateaux. Et comme mon prochain projet qui s'appelle la pirate noire, c'est pareil, j'ai essayé de trouver un sujet qui est très peu connu. En fait, il y a quelques mois, ils ont sorti un hors-série, Le Monde, sur les pirates et corsaires. Je me dis, bon bah tiens, je vais l'acheter, je vais le lire. Je me suis dit, j'apprendrai certainement rien. Et boum, j'apprends quelque chose. J'apprends que vers 1795, Victor Hugues, le gouverneur de la Guadeloupe, avait créé les pirates noirs pour lutter contre la marine anglaise et espagnole. Et je me dis, mais pour que moi je le sache pas, c'est qu'il y a peu de monde en France,
ouais, c'est ça
qui devait être au courant.
Ouais.
Et en fait, le sujet est d'autant plus intéressant que c'était l'histoire de bateaux qui avaient été montés pour protéger nos îles, Martinique, Guadeloupe, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Haïti, des Anglais et des Espagnols qui voulaient nous prendre ces îles-là, parce qu'il y a eu les guerres d'esclavage et de la Révolution, après la Révolution. Et là, je me dis, et alors c'est donc des commandants qui étaient blancs, qui venaient de métropole, révolutionnaires, sans culottes, et qui commandaient ces pirates noirs, qui étaient des navires dont l'équipage était entièrement composé de noirs affranchis.
Ouais, ah oui.
C'est pour ça que nous, les Français, on appelait ça les pirates noirs, les Anglais les picaroons, et les Espagnols appelaient ça les picarones. Ce qui veut dire en espagnol, picarones, c'est petit brigand. Ça ne veut pas dire pirate noir. Mais certainement que les Espagnols ont appelé ça picarones, ça a donné picaroons, qui veut dire là, par contre, pirate marron en anglais, et ce qui a donné pirate noir chez nous. Il y a une évolution dans les termes.
Oui, dans les termes, oui.
Et là, donc je me renseigne, et puis là, j'apprends qu'il y a une certaine Louise Antonini, pirate française, qui est parti en Guadeloupe et en Martinique en 1794, et dont on n'a plus de nouvelles pendant 10 ans, jusqu'en 1804, où elle se fait capturer et emprisonner sur un ponton en Angleterre. Et donc là, je me dis, bah voilà, j'ai ma Louise Antonini, qui est partie faire la guerre là-bas pendant 10 ans. J'ai ma documentation sur la guerre de ces pirates noirs, qu'on menait presque à la quasi-guerre contre les Américains en 1700. Et après, moi, j'ai plus qu'à broder, c'est-à-dire que je vais la faire participer à presque tous les combats qu'ils ont eu, parce qu'après, je me documente avec des livres. Et voilà, et c'est comme ça que naît un récit et une histoire, quoi.
Ça revient vraiment à faire une recherche historique et presque anthropologique.
Ah, bah là, j'ai de la documentation sur les navires, sur les navires pirates noirs qu'on, j'ai tout, hein. J'ai même les navires capturés. C'est des documents. En fait, j'ai les navires capturés, les capitaines anglais de l'époque, la date de capture, ce qu'ils transportaient, par quel navire ils ont été capturés. Et puis j'ai un bouquin sur tous les combats qui ont eu lieu sur Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Grenade, Alva. Alors du coup, évidemment, moi j'en fais un, je sais pas, comme on sait pas ce qu'elle a fait pendant 10 ans, je vais pouvoir m'en servir. Et moi, elle va croiser Toussaint Louverture, Fédon, elle va croiser tous les personnages mythiques de l'époque dans les îles, quoi.
Et alors là, c'est passé tout ça, est-ce qu'il y a des projets?
Ça, c'est le projet, c'est apparaître.
C'est le projet.
Là, j'ai fini Anne Bonny, je suis actuellement sur la pirate Carte Noire. Bah, en plus, c'est une série que, dont le titre est tout
toujours
trouvé.
Dans la même lignée, quoi.
Toujours dans la lignée des navires documentés, histoires documentées, avec un, alors pour le coup, un personnage qui existait, mais qui va participer à tous les combats de l'époque. Il y aura obligatoirement une partie romancée toujours. D'accord. Je rajoute toujours une partie romancée à la partie historique parce que j'ai pas envie de faire une BD historique. Je vous dis, c'est vraiment, c'est vraiment l'exemple de tous ces romans. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, Angélique Marquise des Anges, on connaît la série télé, mais en vrai, c'est une saga de 25 tomes écrite par Anne Gollon qui dépeint la vie d'Angélique du départ jusqu'à la naissance des États-Unis d'Amérique, quoi. Et en fait, elle faisait le même principe, c'est une base très documentée avec un personnage à inventer qui était remis dans l'histoire, quoi.
Est-ce que de temps en temps, il y a des personnages, je dirais, de second plan qui reprennent un petit peu le devant ou pas du tout, ou c'est
après ça c'est des astuces scénaristiques. Moi je t'assure que ma pirate noire là, qui s'appelait Louise Antonini, je vais la faire accompagner par des gens dont je ne sais même pas s'ils existaient. C'est-à-dire qu'elle va avoir un ami qui va être un indien caribe, parce que les indiens caribes ont beaucoup aidé. Elle va avoir un ami noir parce que elle était sur les pirates noirs,
c'était la période
il y avait que des noirs affranchis sur le bateau, donc ça va être des gens qui vont à la fois des fois la protéger, ou moi c'est elle qui va les protéger parfois. Enfin, d'avoir plusieurs personnages, ça permet d'amener des astuces scénaristiques pour amener autre chose justement que l'histoire, purement histoire. Tu vois, on peut faire arriver comme une histoire d'amourette ou qui n'en sera pas une, parce que justement j'ai envie de faire pour une fois une histoire où la pirate n'aura pas du tout d'histoire d'amour, parce que pourquoi, après tout il y en aurait obligatoirement. Et il y a quand même quelques-uns qui vont tenter, et elle va leur dire: non, mon gars, on est sur un bateau, quoi. On n'est pas. Voilà, quoi.
D'accord. Bon, écoute, on arrive à la fin de notre interview. Ouais. D'abord, merci, Franck, parce que c'était très intéressant.
Je suis désolé quand on me lance là-dessus.
Oui.
La plupart des journalistes qui m'interviewent, ils me disent ce qui est bien avec vous, c'est qu'on vous pose une question. Et après,
c'est ça, et puis c'est découvrir et apprendre, aller au-delà de nos représentations clichés que nous avons des pirates, parce qu'on les a tous.
C'est ce que j'essaie toujours de faire quand je fais quelque chose, c'est d'essayer de
remettre correctement la vision.
Oui,
réalité peut-être.
J'ai une base, dès l'instant où je pars sur une base historique sur les navires rigoureuse, j'essaie de faire pareil pour l'histoire. Je tiens de ça du fait que j'ai fait, étant jeune, ce qu'on appelait du modélisme naval, c'est-à-dire faire des maquettes de bateaux en bois qui sont des reproductions des bateaux à l'identique, mais version miniature, quoi. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'est née ma passion pour tout ce qui est la mer. Ça a commencé par ces maquettes de bateaux en bois, puis ensuite je me suis plongé dans les romans de marine, parce qu'automatiquement on est sur des plans où il y a des terminologies qu'on connaît pas. Et puis ensuite, une fois qu'on a commencé à les faire, on a envie d'apprendre comment on vivait à bord de ces choses là quoi. Et donc et pour ça il faut lire des romans, lire des témoignages de marins, voilà.
D'accord,
merci beaucoup.
Merci Franck.
D'être passé par nos micros. Vous avez compris.
C'était un plaisir. On va aller retrouver les lecteurs.
C'est ça. Ils vous attendent. Hein,
Ils vous attendent.
Merci beaucoup, Franck, d'être passé par nos micros.
Merci, au revoir.
Nous, on repart en musique avec un des morceaux qui va être programmé sur le festival à venir la semaine prochaine. Le festival Favrock qui se déroule à la Bonneville sur Iton, ou plus précisément sur le domaine de la Noé. Et je vous propose tout de suite qu'on écoute Head Charger.
Rediffusion d'une émission du Principe Actif.
Headcharger que vous aurez l'occasion de retrouver dès la semaine prochaine sur le festival Favrock qui se déroule sur le domaine de la Noé à la Bonneville-sur-Iton. Nous sommes toujours en direct, en live et en public du festival de la BD d'Evreux. Et venez.
La radio va bien et nous en sommes plutôt satisfaits. Mais au plan des programmes, on pourrait faire beaucoup mieux.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Principe actif, à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Principe actif, le mix des cultures.
Maintenant. Et on est toujours en direct, en live et en public de cette fameuse place de la mairie, la place du Général de Gaulle, où on vous invite plus que expressément à venir nous rejoindre. L'occasion d'échanger, de discuter, de papoter avec les auteurs, les scénaristes, les colorisateurs, les éditeurs, en fait, ceux qui font le monde de la BD. Et justement, nous avons avec nous Vincenzo Cuca. Bonjour.
Bonjour à moi et à toi aussi.
Mais merci. Alors, on était en train de discuter hors antenne. Comment ça va là? Il commence à faire beau. Comment ça va pour toi aujourd'hui?
Ah, parfait. Mais un peu moins pour les temps. La température, il va et vient.
Ouais, c'est ça. Ça va et vient. Oui. Voilà. Vous l'aurez entendu à l'oreille. Il nous vient d'Italie. Il est originaire d'Italie. Mais alors, il aura travaillé dans différents styles. Il travaille dans différents styles de bande dessinée, ça va du franco-belge au comics avec des influences qui viennent d'un petit peu partout. Et notamment, tu as commencé avec le comics, qui est un style américain très particulier quand même, le comics.
En fait, mon rêve quand j'étais un bébé est de travailler pour Popeye.
Ouais.
Avant de tout et après pour Mickey, Donald. Et après tout, mon style est né humoristique, pas réalistique. Et j'avais eu beaucoup d'occasions de dessiner après l'école, lycée artistique, à faire aussi les statuettes avec la sculpture, avec l'argile.
Oui.
Et j'ai absorbé beaucoup d'enseignements avec la 3D, avec la sculpture. Et mon ami, il est parti pour les États-Unis pour dessiner un style américain. Et il m'a téléphoné, il m'a demandé, il y a une place là-bas pour toi.
Et alors justement, il y a de travailler tous ces styles-là, oui. Finalement, ça oblige à changer de façon de penser ou finalement, il y a un mélange qui se produit. Exactement. Comment ça marche pour toi? Est-ce que ça change la façon de penser à chaque style? Quand tu fais du franco-belge, il y a une façon de penser. Quand tu fais
étudier d'un jeune le style humoristique, il m'a aidé beaucoup pour la... Comme c'est dit, la morbidezza.
Ah oui,
morbide, les poses très articulaires, plus soft. Voilà.
D'accord.
Ok, de le style humoristique.
Oui.
Et je suis